Bien, donc nous accueillons aujourd'hui Madame Sylvie Lefebvre, qui est professeure à l'Université Columbia à New York. Sylvie Lefebvre est une normalienne munie de tous les sacrements, qui était professeure à l'Université de Tours, qui est tellement brillante qu'elle a franchi l'Atlantique, recrutée par une des plus prestigieuses universités américaines. Et Sylvie Lefebvre réunit des qualités qui ne sont jamais réunies chez personne. C'est-à-dire qu'elle réunit les qualités de la normalienne et de la chartiste. Elle est normalienne, elle a la finesse, la sensibilité littéraire, qu'on attribue souvent à tort, d'ailleurs, à cette race plutôt puante, mais enfin bon, c'est pas son cas. Enfin, puante, je veux dire... trop satisfaite d'elle-même, et pas toujours à raison, à juste titre, mais dans son cas, c'est le contraire. Elle pourrait être plus satisfaite d'elle-même qu'elle ne l'est. Et elle a les qualités, enfin, que j'appelle les qualités d'une chartiste, parce que c'est une philologue à la fois extrêmement savante et extrêmement rigoureuse, qui a le sens du travail sur les textes, sur les manuscrits, sur l'histoire des textes. D'ailleurs, elle a dirigé la section romane du fameux Institut de recherche et d'histoire des textes qui fait vivre. Et la réunion des deux est extrêmement précieuse parce que, au lieu de dire, comme moi, par exemple, des choses en l'air, comme ça, qui ne sont pas étayées sur des connaissances précises, eh bien, elle part d'une science véritable. Et au lieu de s'arrêter, comme d'autres, à cette science véritable et de considérer qu'elle a tout dit une fois qu'elle a montré qu'il y avait deux cahiers intervertis dans le manuscrit machin, etc., elle en tire des conclusions qui ne sont pas de purement historiques ou d'histoire des textes, mais qui ont des implications pour la littérature, pour la nature de la littérature médiévale, pour la compréhension de la littérature. Et alors, elle l'a montré de façon exemplaire dans son plus grand ouvrage, Antoine de La Salle, La fabrique de l'œuvre et de l'écrivain, et puis avec une édition du traité des anciens et nouveaux tournois. Et Antoine de La Salle, bon, je ne vais pas déflorer, vous savez, c'est l'auteur de cet ouvrage qu'on appelait autrefois le petit Jean de Saint-Tré, qu'on appelle maintenant Jean de Saint-Tré, je n'en parle pas, elle va nous en parler, mais le simple titre Antoine de La Salle, la fabrique de l'œuvre et de l'écrivain, montre qu'elle est en plein dans le sujet de cette année et à partir d'un auteur qui est presque trop beau pour être vrai pour illustrer les questions que nous nous posons. Et donc, elle va nous parler d'Antoine de La Salle, l'écrivain au graffiti, parce qu'il y a des histoires de signatures et des histoires passionnantes. En plus, non, elle a de la chance parce que c'est la fin du Moyen-Âge, c'est une époque où il y a des manuscrits autographes, enfin, où on est un peu mieux, un peu moins démunis. Mais enfin, vous allez voir ce que vous allez voir.
Merci. Alors, introduite de cette manière-là, ça va être difficile de rester au même niveau, donc vous m'en excuserez immédiatement. Le sujet de mon exposé, Michel Zinc l'a indiqué, n'est pas entièrement, voire pas du tout neuf, mais bien entendu, je ne saurais prétendre que ce que j'ai écrit là-dessus soit connu de tous, donc pour un certain nombre d'entre vous, ce sera du neuf. Et en effet, le dossier reste tout à fait exemplaire pour le thème du cours de cette année, mais je remercie infiniment Michel Zinc de me donner donc l'occasion de parler ici. Antoine de La Salle est donc un de ces écrivains de la fin du Moyen-Âge sur lequel nos sources d'informations sont relativement nombreuses. Il est né en 1386 en Provence, il est le fils bâtard de Bernard de La Salle, un grand condottiere gascon, et d'une Milanaise, Perrine d'Amandel. Cette jeune femme appartenait à la suite de l'épouse légitime de Bernard, Ricciarda, qui était une des filles naturelles de Bernard Beau, Visconti, seigneur de Milan et d'autres villes lombardes, qu'il avait épousée en février 1385 et avec laquelle, sans doute, il n'a jamais véritablement vécu. Rappelons, et c'est l'image que vous avez sous les yeux, qu'un bien plus célèbre, encore aujourd'hui en tout cas, condottiere, d'origine anglaise, lui, John Oakwood, avait lui aussi épousé une fille naturelle de Bernard Beau qui casait ainsi toutes ses filles auprès de grands soldats, de grands meneurs d'hommes. Et c'est la fresque de Uccello au Dôme de Florence. Bernard de La Salle était un petit seigneur issu du diocèse d'Agen où existaient pas moins de 3 toponymes La Salle en un ou deux mots. Il a commencé à se faire remarquer pendant la guerre de Cent Ans dans le camp anglo-navarrais, donc contre les troupes royales, puis il est devenu capitaine de grande compagnie. Froissart en parle à plusieurs reprises dans sa chronique à partir des années 1350. À la fin de 1374, Bernard part pour l'Italie, où il servira la maison d'Anjou dans sa conquête du royaume de Naples, mais aussi les papes d'Avignon. Il parcourt toute la péninsule, il revient régulièrement en Provence, et il meurt dans un traquenard en 1391, entre Gap et Embrun, alors qu'il repartait pour l'Italie, à la solde, cette fois, de Gian Galeazzo Visconti, qui était le neveu et l'assassin de Bernard Beau, le beau-père de Bernard de La Salle. Antoine est mineur au décès de son père et il va obtenir un soutien financier, sa mère pour lui bien sûr, un soutien financier de la mère, de la part du principal débiteur de Bernard, à savoir la papauté avignonnaise. On sait que grâce à cela, il a pu recevoir une première éducation avec un grammairien. À 14 ans, il est en âge de servir et il entre dans la carrière militaire pour Louis II d'Anjou, qui lui aussi avait une dette à l'égard de son père. Jusqu'en 1448, Antoine reste dans cette maison, servant successivement Louis II, Louis III, puis son frère René, le grand René d'Anjou, et le fils de ce dernier, Jean de Calabre, dont il a été le gouverneur. Tout cela le conduit à voyager de Provence en Italie, de Bruxelles à Ceuta, de Londres à Nancy et à Saumur. Après 1448, à plus de 60 ans, il passe au service de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, pour s'occuper de ses 3 fils. Et puis, il disparaît après février 1460. Soldat, grand voyageur, amateur d'héraldique, Antoine a aussi été écrivain sur le tard. Ses 5 livres ont été rédigés entre la fin des années 1430 et 1459, soit entre 50 et 70 ans environ. Sa biographie, on va le voir, n'a pas un intérêt seulement documentaire, elle pèse sur l'œuvre et l'informe en partie. 2 textes trouvent leur titre dans un jeu avec le nom propre de l'auteur. En 1451, Antoine termine une compilation d'exemples historiques mêlés à des souvenirs personnels qu'il dédie à son nouveau seigneur, c'est le texte 1 de l'exemplier. « À l'honneur, amour et révérence de vous, Monseigneur Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, de Ligny, de Conversan et de Brienne, je, Antoine de La Salle, écuyer, votre très humble serviteur, me suis délité à vous faire ce présent livre. J'ai pris plaisir à vous faire, à faire pour vous ce présent livre. C'est le livre qui s'ensuit, c'est le livre qui suit, lequel je nomme La Salle, dont je porte le surnom. » Et tout à la fin, il le répète, c'est le texte 2, « Et s'y donnerait fin à ce dernier chapitre et conclusion de ce présent livre dit La Salle, achevé et parfait en votre châtel du Chastelaire, le 20e jour du mois d'octobre, l'an de notre Seigneur, 1451. » Dans l'histoire de l'anthroponymie, seul le nom de baptême a longtemps été considéré comme premier et même comme unique, car donné à un individu à sa naissance. Tout autre nom ne pouvait donc être qu'un surnom. Renvoyant à un métier, écrivain, clerc, ou une origine géographique, de machot, de pisan, il offre une définition supplémentaire. D'où, dans de nombreux cas, l'usage de l'article défini, le clerc, le fèvre, ou de la formule agglutinée, le dit, la dite, qui n'est plus utilisée aujourd'hui ou presque que dans la prose juridique ou administrative, mais qui, au Moyen-Âge, avait tôt envahi la prose littéraire. Autant qu'un titre, l'œuvre d'Antoine reçoit bien un surnom. Ce présent livre dit La Salle. Le geste de présentation se double d'un rituel d'imposition du nom. Cette salle, lieu d'origine et héritage du père, résonne de la noblesse du lieu que le terme désigne. Pièce de réception et d'apparat, elle est la métonymie du château ou du palais. Dans le livre en question, elle sert d'ailleurs de cadre et de structure aux anecdotes historiques et morales. Selon un plan architectural, les exemples de prudence, dévotion et religion donneront, je cite, de bons et puissants fondements, les fondations, tandis que les très excellents et puissants exemples des très saintes vertus de justice, à tempérer de miséricorde, de pitié, de humanité, seront les matériaux des murs du premier livre. Viendront ensuite les très resplendissants fenêtres qui donnaient doivent joyeuse et grand clarté dans le livre 2. Le troisième livre, enfin, est consacré au pavement et à la porte. Et car, parce que toutes portes sont des textes que vous n'avez pas, parce que toutes les portes de salle raisonnablement doivent être hautes, belles, larges et plantureuses, généreuses, et pour ce, c'est pourquoi je les fais des très hauts, larges et plantureux, doux et aimables exemples de libéralité, de gratitude, d'aimable pauvreté et de disposition des songes. La porte monumentale de la salle monumentale s'ouvre donc sur des qualités qui ont toutes partie liées avec l'idée d'hospitalité, d'amitié, du sens de la communauté. Ce qui concerne les songes même ne vient pas comme un ajout artificiel. Il y est en effet question à nouveau de portes, les fameuses portes de cornes ou d'ivoire de Virgile et d'Homère, mais aussi il y est question des seuls rêves prémonitoires qui touchent au destin d'un royaume et qui ouvrent donc un nouveau seuil dans l'histoire universelle. Deux métaphores structurantes sont donc convoquées dans cette œuvre. Celle du texte, construisant par ses différentes parties un monument, un bâtiment, et il y a là toute une tradition qui illustre la Cité des Dames de Christine de Pisan ou plus tard le Temple de Boccace de Châtelain. Mais il y a aussi la métaphore de la mémoire artificielle comme construction d'un lieu ou de lieux imaginaires qui permettent de stocker puis de retrouver des informations nombreuses. Dans sa conclusion, c'est le texte 3, Antoine mentionne, comme en passant, tant cela est évident, le but pratique de son livre. À vous, tout le premier, il s'adresse à Louis de Luxembourg, et puis à tout prince, seigneur et dame, présent et à venir, qui seigneurie ont à gouverner, soit mémoire des choses dessus dites, afin que, en ces très nobles, illustres et excellents exemples, vous et eux puissiez aucun bien profiter. Quant au geste même de la compilation, un choix d'extrait puis la disposition de ceux-ci, ce geste-là est comparé à la manière dont Zeuxis élabora sa statue de Junon. Incapable de trouver un modèle féminin parfait, il fit poser 10 jeunes filles pour, je cite Antoine de La Salle, « assez mieux parvenir à la perfection de son ouvrage ». De même, dit l'auteur, « le mieux que j'ai pu, comme simple, rude et de petit entendement, est recueilli de plusieurs excellents livres les très glorieux exemples qui suivent ». Ainsi, l'artifice de la construction, prendre des morceaux pour faire quelque chose de meilleur, l'artifice de la construction est essentiel au sens. Et même s'il reprend beaucoup de ses matériaux à un best-seller de l'époque, la traduction française des Facta et Dicta Memorabilia de Valère Maxime, Antoine conçoit un espace qui lui est propre par le dessin et par le nom, un espace qui ne s'en ouvre pas moins aux autres, comme il l'indique dans le texte 4. Vous très humblement suppliant, en vous suppliant avec beaucoup d'humilité, et à tous autres seigneurs et dames, que en cette salle vous plaise souvent ébanoyer et y repaître vos yeux, vos oreilles et vos cœurs, si en vaudrait et tous autres assez mieux. Lieu de réception, lieu de plaisir, ébanoyer, cette salle est aussi celui de la réfection, repaître, et de la perfection, assez mieux, perfection morale, bien sûr. Une dizaine d'années plus tôt, en 1442-1444, Antoine de La Salle proposait non plus une œuvre à habiter, ou pas encore une œuvre à habiter, mais une œuvre à manger, et même il s'offrait en quelque sorte à la dévoration publique. Reprenons un livret double écrit pour la duchesse Agnès de Bourbon, Le paradis de la reine Sibylle et le récit d'une excursion aux îles Liparis. Il étoffa ce livret en y ajoutant 28 autres éléments pris ici et là, pour en faire un recueil, qu'il offre cette fois à Jean de Calabre, gendre de la première dédicataire, mais aussi son ancien élève, pour le dire vite. C'est le texte 5. Desquels leurs écritures, aussi de ce de ce peu que j'ai vu, vous ai fait ce petit livret. Donc il a pris dans des textes écrits, mais aussi dans ses propres souvenirs, et il a constitué donc ce petit livret que je nomme la salade, pour ce que, en la salade, se mettent plusieurs bonnes herbes. Antoine joue cette fois de la forme latine ou italienisée de son patronyme, de la sala, qu'on retrouve dans de nombreuses pièces d'archives. La salade en constitue donc à peine une anagramme, et Antoine n'y insiste d'ailleurs pas, au contraire de ce qu'il a fait pour la salle, on l'a vu. Mais ce qui donne sa saveur à la transformation, c'est que le mot salade, comme le plat qu'il désigne, sont encore des nouveautés d'importation italienne. Laurent de Ier Fay, au début du XVe siècle, traduit donc « insalatuzze d'erbucce » du Decameron de Boccace par « salate d'herbe ». La salade relève encore de la cuisine et pas encore du potager. C'est un plat assaisonné avant d'être une catégorie de plantes. Antoine a donc parfaitement choisi le titre de son œuvre puisqu'il en révèle le mode d'écriture, la composition au sens littéral. Il n'est pas l'auteur de toutes les herbes qui la composent, mais c'est lui qui les a sélectionnées et les a réunies. Montaigne usera encore de la même image lorsqu'au début du chapitre des noms, il souhaitera en justifier le style mêlé ou, pourrait-on dire, la cuisine. C'est le texte 6. Quelque diversité d'herbes qu'il y ait, tout s'enveloppe sous le nom de salade. De même, sous la considération des noms, je m'en vais faire ici une galimafrée de divers articles. Y a-t-il dans le choix de ces deux titres, la salle, la salade, une singularité ? Il semble bien, car je ne connais qu'un autre texte français qui ait pareillement reçu pour nom celui de son auteur, ou plutôt un dérivé du nom de son fief. Il s'agit d'une compilation d'histoire universelle rédigée par un chevalier normand, Jean de Courcy, seigneur de Bourgachard. Cependant, ce titre, la Bouchardière, ne figure que dans certaines mentions d'explicites, avec des variantes fortes, si fine se présente Rétier, appelée la Boucassière ou la Boscachardine, ou enfin la Bouchardière. Jamais motivé par l'auteur du texte dans son œuvre même, il est difficile de savoir s'il est parfaitement authentique ou légèrement apocryphe. Dans une épître qu'il adresse à son confrère, historiographe du roi, Georges Chastelain, qui est l'historiographe des ducs de Bourgogne, autour de 1461, va s'amuser à jouer du nom de son confrère et de son correspondant, Jean Castel, pour faire son portrait. Il transfigure donc Jean en une architecture éblouissante de clarté, toute de verrières, fenêtres et cristal, une sorte de castel de sa propre rhétorique. Le procédé onomastique qui assimile un nom à un lieu ou à un objet vient donc ici de l'extérieur de l'autre, qui est à la fois son rival et son confrère, et il ne constitue donc pas un titre d'œuvre, mais se fait titre d'éloge. Le geste et le choix de ces titres par Antoine semblent donc assez particuliers. Un autre indice de l'importance qu'Antoine accorde à l'inscription au sein de ses textes de ce qui le circonscrit socialement, pas seulement son nom, est la forte présence de l'héraldique. Juge du Pas de Saumur, organisé en 1446 par René d'Anjou, auteur, comme vous l'avez entendu, en 1459 d'un dernier texte qu'il a consacré au rituel des anciens et des nouveaux tournois, Antoine est pourtant resté un amateur d'héraldique, amateur au sens plein. Et dans une anecdote de son dernier ouvrage, il renvoie donc certains jeunes gens peu sûrs des couleurs et des figures de leurs écus, ce qui les empêche de jouter, aux spécialistes que sont rois et héros d'armes, ce qu'il ne prétend pas être. Dans son roman historique, la fausse vraie biographie de Jean de Saintré, un personnage historique qui croise Bernard de La Salle dans les pages de Froissart. Dans ce roman Jean de Saintré, Antoine a recopié les morceaux d'un armorial, donc il a pris ailleurs ce qui est l'ouvrage d'un spécialiste, il s'agit de l'armorial d'Urfé. Les troupes qui partent en Prusse combattre les Sarrasins sont ainsi constituées par une très longue liste de plusieurs pages qui fait défiler un nom suivi du blasonnement de ses armoiries et de son cri de ralliement. À la fin de la marche d'Aquitaine, on trouve le texte 7, « Le seigneur de la salle, ondoyé d'argent et de gueules, de 8 pièces, écrioit Mars, et mains autres chevaliers et écuyers de Guyenne, François. L'adjectif François qui termine donc la phrase se comprend seulement si on lit la rubrique suivante. Ceux qui y furent, sont donc ceux qui participèrent à l'expédition en Prusse, de la dite marche, c'est-à-dire de la marche d'Aquitaine toujours, mais cette fois tenant le parti angloué, que pour être à celle très sainte journée, vor honorée et passée sous la bannière du roi. Donc on est pendant la guerre franco-anglaise, la guerre de Cent Ans, hein, c'est l'espace temporel dans lequel Jean de Saint-Tré prétend se dérouler. Et il y a donc des Aquitains qui sont du côté des Français, du roi, et des Aquitains qui sont du côté des Anglais, à l'exception donc de cette bataille contre l'ennemi païen qui réunit tout le monde. Pareille situation loyaliste, donc le seigneur de la Salle ici fait partie des chevaliers français, pareille situation loyaliste empêche-t-elle de voir ici un souvenir du père, de ce Bernard, dont les chroniqueurs ont pu dire qu'il était anglais, en raison même de son appartenance à l'armée étrangère. Surnom tout à fait répandu, La Salle pourrait renvoyer ici, bien entendu, à une autre famille du même nom, et il n'en manqua pas. Toutefois, l'écu qui a été décrit ici se retrouve dans une peinture de l'unique copie du Paradis de la Reine Sibylle, le premier recueil donc offert à Agnès de Bourbon dans le manuscrit de Chantilly, et qui est datable par ses peintures des années 1440-1450. Les armes de la duchesse, je ne sais pas si j'ai une flèche, les armes de la duchesse figurent sur l'écu posé sur le coussin du siège. Bourbon d'un côté et les deux Bourgognes de l'autre côté. De même, l'écu qui se trouve à terre, qui est donc un ondoyer d'argent et de gueules de cette pièce, existe dans d'autres manuscrits du XVe siècle. Il s'agit alors des armes de la grande famille des Rochechouart. C'est donc à eux qu'on a attribué l'écu de cette scène. Par exemple, dans le catalogue des manuscrits datés, rédigé par les très savants Charles Sarmaran et Robert Maréchal en 1959. On n'y voit rien, disait en titre Daniel Arras dans un de ses magnifiques essais sur le pouvoir aveuglant de la peinture et en raison de ce qu'il appelle les habitudes acquises dans lesquelles se fonde et se reconnaît notre communauté académique. De la même manière, les deux écus de cette page ont donc été identifiés comme les marques des possesseurs successifs du livre, la duchesse de Bourbon d'abord, la famille de Rochechouart ensuite. La mise en scène particulière de ces écus a ainsi été soigneusement ignorée et est passée comme inaperçue, alors même qu'elle est, ou bien peut-être parce qu'elle est, exceptionnelle. Pour commencer, on peut y reconnaître une scène de dédicace. Le texte en regard sur la page en face le confirme, et c'est le texte 8. « À très excellente et très puissante princesse et ma très redoutée dame, madame la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, comtesse de Clermont et de Forez et dame de Beaujeu, etc. » Et puis un peu après, « Et car, parce que, toute promesse se doit loyalement acquitter, pour ce, ma très redoutée dame, vous envoie par écrit et pour trait les monts du lac de Pilate et de Sibylle, et aussi tout ce que j'ai pu voir et moi informer par les gens du pays, le 18e jour de mai, l'an 1420, que je y fus, si comme après s'ensuit. » Et donc, il lui envoie aussi la relation de tout ce qu'il a pu recueillir auprès des gens du pays lors de sa visite en ces lieux, monts du lac de Pilate et de Sibylle, le 18 mai 1420. Toutefois, dans la scène figurée, si les écus sont bien dans les situations respectives d'un dédicataire en position de souveraineté sur le siège et du donateur qui est en position d'humilité plus bas, les corps physiques sont absents, tout comme l'objet de la transaction, le livre offert. D'autres étapes interprétatives permettent de rendre compte de ces particularités uniques. La dédicace prend la forme d'une lettre qui accompagne l'envoi de l'œuvre vers la duchesse de Bourbon. Elle est en effet loin d'Antoine, texte 9, et ce, je vous envoie le livre, pour vous obtenir ma promesse, pour tenir ma promesse, et afin que de ma fouet, je ne puisse être repris si jamais venouais en votre présence, et afin de ne pas subir vos reproches si un jour je me trouvais devant vous. Pour représenter ce transfert du livre, en l'absence des deux protagonistes réels, ces derniers sont tout simplement remplacés par leur écu. Dans Jean de Saint-Ré, le roi de France désigne le héros éponyme comme son lieutenant pour la croisade contre les Sarrasins, par une phrase tout à fait éclairante pour notre propos, c'est là le texte 10. « Saint-Tré, dit le roi, je vous baille de ce voyage la conduite et la charge de ma bannière qui représente mon corps. » Drapeau, écu ou portrait fonctionnent au Moyen-Âge comme des substituts ou des médiums du corps réel, jusqu'à ce que le portrait prenne le pas sur les deux autres. Devenant et devenu réaliste, ce portrait va être privilégié comme un des moyens, le seul moyen, de figurer l'apparence mortelle d'un individu précis. Les années 1430-1440 voient justement le développement du réalisme pictural. Or, la promesse d'Antoine à Agnès de Bourbon était double. Lui faire parvenir, on l'a vu, le récit de son exploration du fameux paradis italien de la reine Sibylle, mais aussi un portrait, une image fidèle des deux monts de Pilate et de la Sibylle. C'est ce qui était fait dès le folio 1 recto, soit avant la double page de dédicace que nous avons vue. Et on a en fait les deux monts ici en perspective l'un derrière l'autre. Au premier plan, le mont Pilate et derrière le mont de la Sibylle. L'artiste qui a travaillé dans ce volume peut être identifié avec un individu qui a travaillé pour la maison d'Anjou, comme Antoine. Son choix et sa maîtrise de l'aquarelle, qui sont rares alors, mais aussi son observation, vous pouvez le voir ici, comment les cinq hommes entrèrent dedans la cave, c'est-à-dire dans la grotte, son observation des mouvements, son sens de l'inscription des corps dans l'espace, incite à croire qu'il a eu une connaissance directe de l'art italien au même moment que Fouquet. Le volume commence donc par une image en pleine page, sans texte. Les lignes qui sont ajoutées sont des lignes qui ont été ajoutées postérieurement, ce qui est assez extraordinaire pour un livre, même à cette époque. Lorsqu'on tourne ce premier folio, pour tomber sur la double page de dédicace, le livre a donc déjà été ouvert, et cela explique sans doute que la scène d'offrande ne puisse plus en accueillir de représentation. Enfin, les éléments textuels et visuels de ces deux pages redistribue autrement ce qui est uni sur une seule dans les lettres d'annoblissement et de concession d'armoirie dont nous conservons de superbes exemples provenant de la cour de René d'Anjou. Vous en avez donc ici un exemple postérieur, 1475, mais il en existe d'autres plus anciennes. Dans cet exemple, qui est décoré par un artiste de talent, les armes concédées sont représentées avec précision dans le bas droit de la lettre. Celle du donateur, René, sont pendus au rameau vert, un nouveau surgeon qui émane d'une souche sèche, et il y a là un jeu de mots sur le prénom de René, Renatus, né une seconde fois. Et de l'autre côté de la souche se trouve disposé un chapelet dont la boucle forme celle du R de René. Le don ici va du haut vers le bas et s'incarne dans les armes dessinées. Dans la page du paradis, le don monte du bas vers le haut, à condition toutefois qu'on lise le texte. Qui se contente de regarder peut avoir l'impression d'être devant une concession d'armoirie. Comme si pour l'auteur, fils naturel d'un homme célèbre, dont pourtant la qualité de noble est reconnue dans les pièces administratives, écrire pouvait devenir un autre moyen de reconnaissance, ou en tout cas un moyen de reconnaissance supplémentaire. À bien y regarder, l'écu présent dans l'angle du bas ne peut donc être que celui d'Antoine et en aucune manière l'écu des Rochechouart. Mais cet écu-là est resté un apax. Nulle autre représentation ne nous en est connue. De sorte que nous ne savons pas si telles étaient bien les armes de Bernard de La Salle ou si Antoine les a modifiées par un signe de bâtardise, comme cela se faisait, ou encore s'il les a complètement inventées. D'autres signes, pourtant, vous le voyez sur cette page, foisonnent. Les badges d'Agnès, les plumes et les violettes qui figurent sur le dais, mais aussi le badge d'Antoine, qui est d'abord tenu par la femme ailée, hissante de son cimier, un fermail que l'on retrouve aussi sur la tapisserie murale, sur le fond bleu, en alternance avec son chiffre de trois lettres, C C-R. Et ces deux signes emblématiques, qui sont propres à Antoine, fonctionnent eux aussi comme une signature. Mais ces signes, il les a aussi utilisés hors texte. Le système emblématique se développe avec une intensité et une profusion toute particulière pendant le XVe siècle. On use de couleurs, de chiffres, de badges, de mots, ce que nous appelons aujourd'hui plutôt devises. René d'Anjou, on l'a aperçu avec sa lettre d'anoblissement, en offre un excellent exemple, lui qui multiplie les signes tout au long de sa vie. Antoine, qui fut à son service, en usa à la fois de façon plus stable, tout aussi obsessionnelle, mais en même temps plus économique. Antoine eut un mot, lui aussi. Il convient. Ce dernier, légèrement prolongé, forme l'incipit de chacun des titres de la salle, le premier texte que nous avons évoqué, ce texte de 1451. Chaque chapitre commence par « Il convient savoir que ». L'ordre du pédagogue se confond donc avec l'impératif moral du conseiller. Ce type de signature indirecte, perceptible uniquement par un cercle de connaisseurs ou de connaissances, il faut savoir que « il convient » est le mot d'Antoine, se retrouve dans une œuvre du cercle angevin, un peu postérieure. Le roman de Troil est une traduction par Louis de Beauvau, vers 1453-1455, d'un texte italien de Boccace, le Filostrato, et ce texte commence et s'achève par le mot du sénéchal d'Anjou, qui est « sans de partir ». Vous voyez que le mot est inclus dans l'incipit, « sans de partir, tant que serai en vie, à vous, mesdames, me suis entier donné ». Dans deux manuscrits, le procédé, le jeu, a été si bien identifié qu'à l'incipit, la devise est remplacée par celle du commanditaire du livre, jointe à d'autres signes emblématiques. Et ici, vous avez le manuscrit qui a été copié pour Marie de Clèves très peu de temps après la composition de l'œuvre. Vous voyez que l'incipit, ici, véritablement, semble commencer à « tant que serait en vie, mesdames, à vous tout entier me suis donné ». Mais ce qu'on voit au-dessus, c'est une sorte de page emblématique complète avec des chantepleurs, cet instrument qui sert à arroser les fleurs. Au centre, l'écu de Marie de Clèves, son chiffre, LM, et puis sur la première chantepleur en haut, son mot, rien ne m'est plus. Et donc si on reconstitue tout, en fait, il faudrait penser éventuellement, même si ça ne fait plus sens, que rien ne m'est plus vient se substituer au sang de partir du traducteur Louis de Beauvau. Les trois éléments que nous venons de voir, le badge du fermail, le chiffre CCR et le mot il convient, se trouvent réunis avec le nom, la salle, sur une des pages de garde d'un manuscrit latin de Cassiodore conservé à Carpentras. Ce manuscrit, qui est datable du milieu du XIVe siècle, est passé entre de nombreuses mains. Parmi les signatures finales, sur un folio où on a aussi une autre signature d'Antoine, il y a la signature d'un certain Arnaudus de Villanova. Il pourrait s'agir d'un Provençal, d'un Arnaud de Villeneuve qui mourra en 1463, qui fut surnommé le Chevalier, parce que Louis III d'Anjou le consacra-t-elle lors de son expédition italienne de 1420. Difficile de dire si ce Cassiodore appartint véritablement un jour à la salle, ou si avec tous les noms qu'on y relève, il s'agit plutôt d'une manière de Liber Amicorum, un livre sur lequel des amis ou des connaissances ont posé leur marque. 1420, en tout cas, c'est la date qui vit Antoine repartir en Italie, lui aussi avec Louis III, mais pour faire son excursion dans les Monts Sibyllins. Dans les années 1970, un épigraphiste italien eut la surprise de découvrir le chiffre, la photo est très mauvaise, vous m'excuserez, et le badge d'Antoine gravé sur la paroi peinte de deux églises situées sur la route entre le nord de l'Italie, Norcia et Rome, c'est-à-dire à Assise, ici, dans la basilique Saint-François. Vous voyez le badge, le fermail, et il y a les trois lettres CCR qui, malheureusement, ont été oblitérées par le flash. Vous voyez aussi un écu, hein, plus bas, qui n'est pas celui d'Antoine, mais il n'était évidemment pas le seul à graffiter. Et puis, ce même chiffre et ce même badge se retrouvent aussi à Spolète, dans l'église de Saint-Grégoire-le-Grand, sur la fresque d'une sainte qui figure à hauteur d'homme. Et là, l'image est en couleur, elle n'est pas meilleure, je m'en excuse encore. Donc vous pouvez distinguer peut-être CCR, le badge, peut-être un peu moins mal sur celle-ci. Et vous voyez qu'en dessous, on a aussi une autre inscription, mais qui a été caviardée, grattée. La salle n'est évidemment pas un prémoderne graffeur, tagueur, artiste marginal et rebelle. Ces graffitis appartiennent au contraire à une mode durable qui voit de nobles chevaliers en voyage graver ou faire graver leurs signes identitaires, les armes, le nom, des emblèmes, sur les murs de monuments publics afin de laisser une trace de leur passage. Et Montaigne, on le sait, en fit encore de même. Mais il y a plus singulier finalement que cette inscription sur des murs qui répond à une mode. Et cela se produit dans le cadre du livre. Dans le récit de son excursion, Antoine dit avoir été bloqué très vite. Il n'a pas pu aller très loin dans son exploration spéléologique, lorsqu'il a voulu explorer lui-même la grotte dite de la Sibylle. Il ne renonça pas pour autant, non pas à y pénétrer, mais à y faire pénétrer plus avant le lecteur, et ce, au moyen de toute une série d'histoires successives racontées par plusieurs témoins. La progression spatiale se conjugue donc à une régression temporelle. Mai 1420, date de la visite d'Antoine, mais il s'arrête à la première chambre carrée. De là, on remonte à une date antérieure, grâce au récit de cinq jeunes gens, ceux que vous avez vus pénétrer dans la grotte dans une des images que j'ai montrées auparavant, comment les cinq hommes entrèrent dedans la cave. Mais ceux-là rebroussent eux aussi chemin assez vite, effrayés par des vents violents. Ensuite, Antoine reçoit diverses confidences à propos d'un prêtre du pays qui, dans les années 1360-1370, aurait guidé un chevalier allemand et son écuyer, cette fois-ci jusqu'à la seconde grande grotte, dont l'issue est gardée par des portes battantes de métal. Au-delà de ces portes, s'ouvre véritablement le paradis de la Sibylle, donc au terme d'un parcours en partie initiatique. C'est enfin de ce chevalier allemand que les gens du pays tiennent la description du paradis même et de ses règles. De ce faux lieu de délices, où les femmes se transforment en serpentes, du vendredi minuit au samedi minuit, il n'est possible de repartir qu'au terme de 8, puis de 30 et enfin de 300 jours. Au-delà, le visiteur est contraint d'y demeurer à jamais et il est damné, bien sûr. Dans le cas du chevalier allemand, une soudaine conscience de son péché le pousse à repartir avec son écuyer pour courir se confesser au pape à Rome. Le pontife, à titre d'expiation, lui fait attendre son pardon. Et pendant ce temps-là, l'écuyer en profite pour manœuvrer, il n'a qu'une envie, retourner dans ce paradis, et il fait croire au chevalier qu'ils vont être tous deux arrêtés. Maître et serviteur se réfugient alors au paradis, à jamais. Et la narration d'Antoine, a beau faire, vous l'entendez, la part de plus en plus belle à la légende, les différents récits se chevauchent et se répètent légèrement en se renforçant ainsi l'un l'autre. La véridicité des jointures permet d'imaginer que les détails de la suite pourraient être également vrais. Le tout crée un effet de vraisemblable fantastique bien plutôt que de merveilleux incroyable. Inscrire, c'est signer à l'intérieur, dit Ponge, et j'ai emprunté cette citation au très beau livre de Jean-Claude Mathieu, publié chez Corti en 2010, qui s'intitule « Écrire, inscrire ». À la fin de l'histoire qu'on lui raconte du chevalier allemand et de son écuyer, Antoine manifeste son désir de voir la lettre ouverte laissée par celui-ci, et dont il vient de rapporter l'incipit ou la teneur. Vous voyez ici comment le chevalier et son écuyer baillent les lettres au berger et retournent en la cave. Donc il laisse une lettre ouverte, dont l'incipit est le suivant, c'est le texte 11. « À tous ceux qui voudront savoir nouvelles de celui à qui le pape ne voulut pardonner, en ce paradis de la reine Sibylle me trouvera. » Ultime message, dernière adresse. La lettre, par son existence, témoignerait de la vérité de tout le récit. Pourtant, Antoine ne cherche pas véritablement la lettre, mais cherche quelque chose dans la lettre. Texte 12, « Lors je demandais à voir la lettre et qui l'avait, je demandais à savoir qui possédait la lettre, seulement pour savoir leur nom. Et ils me répondirent que les messagers la portaient au pape, que comme se dit, la fit ardoire. Les messagers la portèrent au pape, qui, à ce qu'on dit, la fit brûler. » Seul l'intitulé, l'incipit, aurait donc survécu. Après le feu, c'est un autre procédé d'effacement du nom qui va être mis en scène. Dans une dernière anecdote rapportée par les gens du pays, pour les années 1380 environ, un seigneur de Gascogne ou du Languedoc, du nom de Pax, avait obtenu congé du pape d'entrer dans la grotte. Le pape, après l'aventure du chevalier allemand qui est allé se perdre à tout jamais dans ce faux paradis, avait ordonné qu'on mure l'entrée de la grotte de la Sibylle. Donc avant de pouvoir y aller, il faut obtenir une autorisation papale. Il a donc obtenu du pape le droit d'aller explorer à son tour le paradis pour y rechercher son jeune et son unique frère. Les compagnons de voyage de ce dernier avaient en effet appris au seigneur de Pax que le jeune homme les avait abandonnés au moment où ils allaient s'embarquer pour Rhodes parce que lui préférait d'abord visiter le paradis de la reine Sibylle. Et c'est le texte 13. Et quand il fut en la cave, donc le seigneur de Pax, comme dessus est dit, il trouva le nom de son frère en écrit. Mais onc, je ne l'ai pu savoir, mais je n'ai jamais pu savoir quel était le nom de ce frère. Lors commença son deuil, comme ils m'ont conté, donc alors commença ses manifestations de douleur, et ici vous le voyez évanoui même devant l'entrée de la grotte. Un deuil qui était très piteuse chose à ouïr, et en telle manière que ne fut onc celui à qui le cœur ne larmoya, donc un deuil absolument qui appelait à la pitié, et il n'y avait personne qui ne pleura pas. Mais autre remède n'y put nul mettre, mais on ne put y remédier, sinon que, fort qu'il égratigna tant le nom de son frère, que n'est hors celui qui le puisse ne sache lire. Il gratta tant le nom de son frère que, désormais, plus personne ne peut le lire. Et la cause pourquoi il le fit, et la cause de cette action, nul ne le sait, personne ne la sait, fort que l'on comprend qu'il le fit, afin que nul ne trouvât jamais. On ne peut en comprendre donc la raison, sinon que, évidemment, c'était fait pour que personne ne trouve jamais ce nom. Gratter le nom gravé du frère cadet revient à détruire la mémoire d'un être damné, à le faire disparaître à jamais, puisqu'inversement, ce seul graffiti a avéré sa présence au paradis pour son frère aîné. Cette oblitération de la trace est si parfaite que même le souvenir du nom a été oublié par le témoin de sa découverte, un certain Colas d'Amendola. D'où la notation d'Antoine, « On que je ne l'ai pu savoir, je n'ai jamais pu connaître ce nom », curieusement placé à première vue, juste après la mention de la trouvaille. On trouve le nom, mais on ne peut pas le savoir. Lire le nom gravé comme un véritable signe corporel est sans aucun doute à mettre en relation avec les signes de validation que constituait au Moyen-Âge l'usage d'empreintes de doigts ou d'éléments corporels, des cheveux, des poils de barbe que l'on attachait à certains actes. Car l'écrit à l'intérieur du paradis redevient inscription, ravivant le vieux lien entre graphein, écrire et griffer, le parchemin et la peau d'un corps. Le geste, le verbe qui réalise la désinscription, la disparition, appartient d'ailleurs au même registre, égratigné. Antoine a déjà pratiqué cette assimilation entre corps écrit et corps réel, plus haut dans son texte, tout à la fin de l'épisode du chevalier allemand. Le pape avait alors ordonné que soit condamné l'accès à la grotte. C'est le texte 14. Toutefois, donc qu'il soit venu ne qui que les faits, et pourtant, d'où que cela vienne et quiconque les faits, est l'entrée ouverte. L'entrée est encore ouverte. Ainsi que j'ai dit. Et tant il y a qu'à l'entrée de la cave et dedans la première chambre, l'endroit où Antoine s'est aventuré, où est le pertuis qui donne le jour, où il y a le petit trou qui donne de la lumière, ils y sont plusieurs gens en écrit. Il y a là plusieurs personnes en écrit, qui à très mal peine se peuvent lire, qui peuvent se lire très difficilement. Mais entre ceux, mais parmi eux, j'ai trouvé le nom d'un Allemand qui est en telle manière écrit dedans la roche comme ci-dessous est, qui est écrit de la manière même dans le rocher, dans la pierre, comme dans l'image ci-dessous, plutôt à côté. et aussi le nom d'un autre qui me semble des parties de France ou d'Angleterre selon le langage de son nom, et il y a aussi un autre nom qui semble, d'après le langage utilisé ou d'après la forme du nom, venir de France ou d'Angleterre, qui s'appelle Thomas de Ponce ou de Pouce, et l'hésitation même sur cette difficulté paléographique, un N ou un U, tend à faire croire en la réalité de l'inscription. Et plusieurs autres qui, de la moiteur de la roche, sont couverts, et bien d'autres non, mais qui sont recouverts par la moisissure du rocher. Sur le folio suivant, on trouve de fait, donc, comme en fac-similé, la reproduction de ces deux signatures. Donc le nom, qui n'a pas été donné dans le texte au moment où il est découvert, mais qui est donné comme en fac-similé à Hans van Borg Intrawit. Donc c'est le texte 15, Ernst van Banborg Intrawit, mais de Dimi qu'il saillit, mais il ne dit pas qu'il ressortit, donc si la chose est vraie, et donc si la chose est avérée, je crois que soit le chevalier de Sudi, j'imagine que cela peut être le chevalier dont il a été question, le chevalier allemand qui s'est perdu à tout jamais dans le paradis. Et puis ensuite Thomas de Pouce, et Sestui ne dit mi qu'il entra ne saillit, et celui-ci ne dit pas s'il est entré et ou sorti, et s'il ne sait nul, si ce fut l'écuyer de Sudi ou autre, et donc personne ne sait s'il s'agit de l'écuyer dont il a été question ou d'un autre. On peut remarquer que ce qui semble décisif pour tenir d'une part comme probable que le premier nom est bien celui du chevalier de l'histoire, et d'autre part pour ne rien affirmer à propos de Thomas de Ponce, est un élément absent dans le second cas. Il met son nom, mais il ne dit pas s'il est entré, sorti, il ne dit rien de ses mouvements, mais un élément qui excède la simple signature. Un verbe intrawit. Mais en fait, les choses ne sont pas si simples. Dans la foulée de la découverte des deux noms et avant leur transcription, Antoine dit qu'il a imité leur geste, texte 16. Et semblablement, je écris mon mot et ma devise, mais à très grande peine, tant est le rocher dur. De la même manière, j'écris mon mot et ma devise, mais avec beaucoup de difficulté, tant le rocher est dur. Si pourront dire les autres que je, Antoine de la Salle, ai été dedans. Ainsi, tous les autres pourront dire que moi, Antoine de la Salle, j'ai été à l'intérieur du paradis. Ce que à Dieu ne plaise, ne ne voudrait avoir fait. Dieu plaise qu'il n'en fût rien, et je ne voudrais surtout pas avoir agi ainsi. Il apparaît donc que tout nom trouvé à l'entrée de la grotte est susceptible de signifier que son porteur est allé bien au-delà de ce point, ce qu'Antoine donc craint qu'on dise de lui. Voir n'est jamais ressorti du paradis de la reine Sibylle, comme le chevalier allemand, comme le frère du seigneur de Pax. Comme si, dès que l'on entrait sous terre, dans la montagne de la Sibylle, on atteignait un point de non-retour. Et justement, tout à la fin de son œuvre, Antoine va révéler qu'il est bien resté prisonnier du paradis. Il suffit de lire correctement le passage numéro 17, là où il s'adresse à nouveau à la duchesse de Bourbon, sa première dédicataire. Duquel écrit ma très redoutée dame, je vous mande le double de ce livre, je vous envoie une copie, afin que de ma promesse ne puisse être repris, afin qu'on ne puisse pas me reprocher de ne pas avoir tenu ma promesse, et aussi que si le plaisir de mon dit seigneur, le duc de Bourbon, et le vôtre fut d'y aller, dans le paradis, ainsi que souvent de fois, après dîner ou souper, avait accoutumé de vous ébattre tout à pied, de vous promener à pied, disant vos heures en attendant l'heure du souper, ou après souper de vous retraire, ou donc si c'est après le dernier repas, en attendant de vous retirer, ce vous serait un grand plaisir et y acquerriez grandime pardon qui vous mettrait toute vêtue en paradis. Je saute deux lignes. Si prie aux dames premièrement, et puis à mes seigneurs de vos compagnies, que quand ils iront, et m'y verront, que entre les autres oubliés, leur plaise à souvenir de moi, quand autre part ne penseront. Et donc je prie d'abord les dames et puis ensuite tous les messieurs des compagnies qui se réunissent autour de vous, que quand ils se rendront là et qu'ils m'y verront, que parmi tous les personnages oubliés, il leur plaise de se souvenir de moi quand leurs pensées ne seront pas ailleurs. Cette invitation à la promenade est bien sûr une invite à la lecture, celle de l'œuvre qui est envoyée pour prendre la place du livre d'heures afin de s'acquérir un pardon et un paradis tout à fait paradoxaux puisqu'on y va tout vêtu. La prière que réclame Antoine à ceux qui se rendront là et qui le verront ne peut s'expliquer autrement que par un appel au recueillement face au signe qui, sur la page, manifeste sa présence réelle. Son chiffre, son badge, son mot et son nom, soit sa signature, non pas complète, mais démultipliée. Au sens propre et plein de l'expression qu'il utilise, Antoine est bien en écrit ici. L'espace de la grotte et celui du texte coïncident en effet parfaitement. Le fantastique de l'œuvre est alors d'enfermer littéralement son auteur en son centre. Mort et vivant, Antoine s'y est lui-même entombé, enseveli, mis au tombeau. En écrit, y est mis mon nom, le refrain de la centième des 100 ballades de Christine de Pizan. C'est ainsi que Christine signait son premier recueil de 100 ballades dans les années 1390 par un vers refrain à décrypter pour y chercher une anagramme dont le vers 5 indiquait que, de fait, elle s'y était nommée proprement. Dans la locution verbale, mettre quelque chose en écrit, qui est ici préférée à sa variante, mettre quelque chose par écrit, la préposition est importante. En n'est pas un simple synonyme de par. Elle indique précisément l'endroit où le nom a été déposé, dans le mot écrit. Mieux, la préposition fait partie du lieu écrit où le nom doit se retrouver. En écrit forme l'anagramme de Christine. Au moment donc où elle se fait un prénom par son travail poétique, Christine se dissimule par jeu dans l'écriture. La salle, au contraire, s'inscrit plus qu'en toutes lettres. Il s'inscrit, on l'a vu, en tout sens, en tout signe, au cœur de son œuvre. L'une se fond et se dissout dans les lettres, l'autre s'affiche dans un livre, construction susceptible de mieux défier le temps qu'un monument funéraire. On a cherché une signification cohérente pour l'ensemble des éléments disposés sur la page, sur le mur de la grotte. Et je vous ai donné l'explication que Fernand de Sonnet proposait de ce qu'il considérait comme un rébus en 1946, je ne lirai pas tout. « Je confesse, dit-il, que j'ai hésité longtemps avant de mettre en avant mon interprétation du mot d'Antoine. » Il désigne d'un seul terme ce mot, qui n'est pas juste ici, mais vous voyez bien qu'il considère le tout comme devant faire sens de façon systématique. Cet essai de solution n'a d'ailleurs rien de péremptoire, mais qui dirait mieux ? C égale 100, X égale 10, c'est l'enfance de l'art. Les premiers signes de ce rébus peuvent donc se lire soit 210, soit 510. Mais le fermail, si fermail il y a. La miniature symbolico-héraldique du manuscrit de Chantilly nous invite à chercher du côté de l'héraldique, précisément. Or, le fermail est un meuble héraldique, un meuble à jour et proprement vidé, ce qui se dit, en langage du blason, percé. Donc, il choisit de lire CCX plutôt 100-110 et de lire le fermail à la suite comme percé. Donc, on a 100-110 percés. Il préfère donc cette seconde interprétation à cause même de la devise « il convient ». Conuenit latin est la troisième personne du singulier de l'indicatif du verbe conuenire qui signifie se réunir dans un même lieu, se rassembler. Antoine, nous l'avons dit, joue sur son patronyme La Salle. Il insiste sur le fait, voire assez lourdement, que ce patronyme veut dire l'endroit où l'on se rassemble. Nous aurions donc affaire à une sorte de formule de rassemblement. Antoine aurait pris pour mot un cri de ralliement. Sans s'en disperser, il convient La Salle, etc. Malheureusement, vous avez entendu que tout d'un coup, ce que j'avais identifié moi comme un R était devenu un X. Mais malheureusement, le X est bien un R, et donc tout s'écroule. De plus, ainsi qu'on l'a vu, Antoine a parfois semé seulement quelques éléments de ce qui est pris par Fernand de Sonnet pour un système. Il convient, on l'a vu, dans les incipits de chaque chapitre de La Salle, CCR et son fermail dans les églises italiennes, au dernier folio du manuscrit de Carpentras, et puis aussi sur la double page de dédicace du manuscrit de Chantilly. Plutôt qu'à un rébus, nous avons affaire à un puzzle, mais au sens, dans l'autre sens du mot anglais, c'est-à-dire de ce qui fait mystère, qui reste mystérieux et troublant. Les pièces ont beau parfois en être offertes toutes ensemble, elles ne s'ajustent qu'en partie. Si le fermail est un signe de clôture, comme le fermoir d'un livre, le chiffre triple, CCR, et ça n'est pas n'importe quel R, c'est un R barré, c'est-à-dire ce qui sert normalement à abréger room en latin ou rond en français. Ce ne sont pas les initiales combinées des noms et des prénoms d'Antoine et de la seule épouse qu'on lui connaisse, une certaine Lyonne Célérier de la Brosse, épousée vers 1436. Ce qui est pourtant la solution pour les trois quarts environ des chiffres. La plupart des chiffres sont des chiffres matrimoniaux. On peut se demander alors, si on veut jouer à ce jeu des chiffres, s'il ne pourrait pas s'agir d'évoquer le nom d'une des propriétés provençales qui avait été concédée à Antoine de La Salle par Louis III d'Anjou, le château de Cédéron, Cédéron. Mais ce faisant, je propose à mon tour une lecture en rébus et je n'en suis pas intimement persuadée. On ne peut rien faire non plus de l'abréviation épigraphique qui a servi dans l'Antiquité, CCR barré, pour Curator Civium Romanorum. Sauf à imaginer qu'Antoine aurait fait sienne une fonction de l'Antiquité dont il aurait pu voir la gravure quelque part. Et on a évoqué, pour le grand bâtard Antoine de Bourgogne, de lire son chiffre à trois lettres, là aussi, INE, comme Imperator Navalis Exercitus, ce dont il avait eu la charge. Mais qu'Antoine ait pu se donner comme Curator Civium Romanorum serait évidemment tout à fait étrange. Je ne peux donc qu'avouer l'impasse où je me trouve pour ce chiffre, et le mystère demeure entier, le mystère était peut-être souhaité, même si certains étaient capables de le percer autrefois. Pourtant, l'anecdote du seigneur de Pax en quête de son frère, la rencontre à Rome plus tard, et je n'en ai pas parlé, d'un certain Gautier de Rupp qui prétend que, selon la légende familiale, son grand-oncle paternel aurait disparu dans ce paradis sibyllin et qui demande à Antoine qu'il rencontre à Rome « Vous n'avez pas des nouvelles de mon grand-père, de mon grand-oncle paternel, vous qui venez de visiter le paradis de la Sibylle ?» Donc, toutes ces histoires font du récit d'exploration très clairement une recherche familiale, une recherche des origines. Secrètement, puisqu'il délègue à d'autres figures ce souci, Antoine ne dit jamais qu'il cherche personne dans ce paradis, Antoine se fait en fait un nouvel aîné à la recherche d'un père disparu sur le chemin de l'Italie. Ainsi que le dit Daniel Poirion en préface à la traduction très précieuse que Francine Mora donna autrefois du paradis de la reine Sibylle, on peut se demander si Antoine n'a pas rêvé que ce père, nouvel Ulysse, avait séjourné chez une Circé ou une Calypso souterraine. Le thème sibyllin de cette fornication paradisiaque, déguisé en expédition spéléologique, rejoint donc la question que se pose Hippolyte au sujet de Thésée, vainqueur du labyrinthe. J'ignore le destin d'une tête si chère, j'ignore jusqu'au lieu qui le peuvent cacher. Dès lors, le fait que les armes de La Salle, cet ondoyer d'argent et de gueule, apparaissent uniquement sur le volume de la première version du paradis, ne peut relever du hasard, mais révèle comme le signe d'un lien nécessaire entre elle et la figure du père, même si celle-ci est plus rêvée que réelle. Parce qu'il s'est fait un nom et s'est construit une identité symbolique, Antoine peut par la suite simplifier sa signature. Il continue toutefois à l'incorporer à l'œuvre par le biais de la lettre de dédicace qui sert aussi de lettre d'envoi, aussi bien à la fin du traité sur les anciens et les nouveaux tournois, qu'il dédie à Jacques de Richebourg, le frère de Louis de Luxembourg, son dernier seigneur, mais aussi à la fin du recueil qu'il a constitué autour de son Jean de Cintré. Là aussi, Jean de Cintré ne fait pas sens tout seul, mais avec les deux autres textes qu'Antoine y a joints. Et la signature, alors, peut être aussi bien autographe, ou réputée telle, comme à la fin du manuscrit « Nouvelles acquisitions françaises » 10058, et on voit bien, j'espère, la différence entre l'écriture du copiste, qui répond tout à fait à la date que l'on peut accorder au manuscrit, autour des années 1456, et l'écriture plus archaïque, « Votre très humble et très obéissant serviteur Antoine de La Salle ». Donc là, il n'est pas impossible qu'on ait en effet affaire à une signature autographe. Mais le même recueil cintré, dans un autre manuscrit de la Bibliothèque nationale, le 1506, vous le voyez, la signature est de la main du scribe, « Votre très humble et obéissant serviteur Antoine de La Salle » avant Jésus-Maria et que commence un autre texte. Et à la fin du livre des tournois, là aussi, la signature « Votre humble et obéissant serviteur Antoine de La Salle » est bien de la main du copiste. Moderne d'allure, cette signature paraît plus simple que les jeux qu'inventent les auteurs de la génération suivante, Jean Molinet, Guillaume Crétin, Pierre Gringor. Dans leurs manuscrits, comme dans les imprimés, ces derniers se dissimulent en des acrostiches ineffaçables ou soulignent par des jeux de mots leur talent poétique. J'ai tenté de montrer que cette simplicité d'Antoine, dans les signatures donc, des lettres d'envoi de certaines de ses œuvres, cette simplicité n'est qu'apparente et qu'elle a été conquise au terme d'une recherche d'identité complexe où la vie et le signe se mêlent étroitement. Je vous remercie.